bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez et CFM Villefranche de Rouergue. Alors nous avons intitulé cette émission « Trois chevaux dans le vent ». Alors ça paraît un peu bizarre, mais vous allez très vite le comprendre pourquoi.
Alors Michel, quand on parle des courses hippiques, puisque ces trois chevaux sont liés à l'histoire des courses hippiques, on a pu dire qu'elles étaient le sport des rois. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les rois d'Angleterre en sont à l'origine, et plus particulièrement deux d'entre eux, le roi Charles II et la reine Anne. Alors le premier épousa Catherine de Bragance. Et ça a l'air anecdotique, mais elle lui apporta en dot le port de Tanger en Algérie.
Rien que ça.
Et par extension, cela a permis au roi d'importer des juments barbes, et qui vont être déterminantes dans l'élevage en Angleterre. Et qu'on appelle les Royal Mares, hein, les juments royales. Puis c'est sous le règne de la reine Anne, de 1702 à 1714, que s'établirent les courses telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors tu vas me dire, Michel, cette introduction est un peu longue, où sont les trois chevaux dans le vent, mais elle est importante hein, pour nous permettre de comprendre le contexte qui nous amène au sujet de notre émission. Car en effet, c'est au cours de cette dernière, hein, de la reine Anne, du règne de cette dernière, que deux étalons vont être importés en Angleterre, suivis 15 ans après la fin de son règne par un troisième étalon. Et ces trois chevaux vont changer le cours du monde, car ils sont à l'origine d'une race que l'on ne présente plus, le pur sang anglais.
Donc, si je comprends bien, les premières importations, finalement, sont relativement anciennes.
Tout à fait. Alors, ces chevaux sont d'origine barbe et arabe. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande polémique hein, autour de leur origine, mais aujourd'hui, on peut vraiment dire hein, que on peut déterminer qu'ils ne sont pas tous arabes, hein, contrairement à leur nom, puisque chaque fois, on a Arabian hein, qui est accolé à leur nom. Et ce qu'ils ont fait, c'est grâce à la production hein, qu'ils ont eue, de véritables lignées se sont créées, dont leurs descendants galopent toujours sur nos hippodromes, Michel. Et ils s'appellent Violet Turk, Godolphin Arabian et Darley Arabian.
D'accord. Alors vous êtes sur CFM et vous écoutez les messagers du cheval. Alors, est-ce qu'on pourrait voir quel est le premier déjà qui foule le sol de l'Angleterre ?
Eh bien, il s'agit de Violet Turk. Oui. Alors, on sait qu'il est né en 1678, qu'il est brébrun, et il porte le nom de son dernier propriétaire, hein, Robert Byerley, qui a vécu de 1660 à 1764, et qui est un officier de cavalerie. Donc, Violet Turk appartenait à un Ottoman, hein, dont qu'on ne connaît pas. Le cheval a été capturé à Vienne, en Autriche.
Capturé,
c'est une prise de guerre, hein, lors du siège de la ville par l'armée ottomane en 1683. Ce sont des gens de l'entourage hein, du roi d'Angleterre qui ont pris le cheval. Donc, il traversa l'Europe avec son groom, lui d'origine ottomane. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup de reproductions de Byerley qui nous le montrent avec son groom habillé à l'ottomane. Ils sont arrivés à Calais, où là, ils se sont embarqués pour l'Angleterre. C'est alors que le cheval a été acheté par Byerley, qui en a fait son cheval de guerre.
Ah oui, d'accord. Donc d'abord, c'était pour avoir une monture de guerre, en fait.
Voilà, Byerley, oui. C'est vraiment un cheval de guerre. Hein.
C'est un cheval de guerre, voilà, absolument, oui.
Alors, le Byerley et le cheval se sont embarqués pour l'Irlande, où ils ont participé à la bataille de Boyne, hein, qui a eu lieu en 1680, qui est une grande bataille, hein, qui a opposé l'armée de Guillaume III, protestante, à celle du roi catholique Jacques II. Et c'est au cours de cette bataille, Michel, que Byerley a dû la vie hein, et n'a pu s'échapper parce que c'était quelqu'un de très aventureux qui s'est avancé très en avant dans les lignes ennemies et il a pu échapper à ses poursuivants grâce à la vitesse exceptionnelle de son cheval. Cheval qui, au cours des mois passés en Irlande, avant cette bataille, avait remporté plusieurs courses, notamment une à Downpatrick, hein, dont on sait qu'il l'a remportée.
Alors vous êtes sur CFM, vous écoutez les messagers du cheval, et donc pour ce fameux cheval, c'est, on pourrait presque dire que c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre pour lui en fait, après cheval de guerre, c'est les choses
voilà,
vont évoluer.
Après la guerre, absolument, parce que il a été monté par le Bayerlet, qui était entre autres devenu colonel, hein. Et qui a, il a donc jamais cessé d'être monté par cet officier, mais qui, quand il a pris sa retraite, a donc amené son cheval sur les terres familiales à Midridge Grange, puis à Goldsborough Hall en 1692 dans le nord du Yorkshire. Et c'est là où Bayerlet est devenu étalon. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas assailli beaucoup de juments de qualité. Il faut dire que ce sont des, c'est un cheval, hein. C'est peut-être aussi le propre des deux autres, qui est différent, hein, des chevaux à laquelle sont, auxquels sont habitués les Anglais. Et, mais ça n'a pas empêché, hein, d'engendrer des poulains qui, eux, sont de très grande qualité. Donc, dont trois en particulier, Basto, Jig et Partner, dont le fils Tartare a engendré Hérode. Alors, cet Hérode, hein, qui est né en 1758, est un champion remarquable, qui, dès 5 ans, a été vainqueur à Newmarket, hein, qui est le grand, un des grands champs de course anglais. Et c'est lui qui a établi la lignée de Bayerlet grâce à son fils Diomède, qui gagne le premier derby d'Epsom en 1780. Ce qu'on sait plus récemment, c'est qu'il a également, que Bayerlet a également produit des juments de très grande qualité qui ont été déterminantes dans, dans l'établissement d'autres lignées. Car il faut savoir, Michel, qu'on parle de famille, hein, chez les purs sangs.
Absolument, oui, oui, tout à fait, oui, oui, ce sont pas des, ce sont de véritables familles. Alors, un peu de musique, avec Barry Lyndon, Sarabande de Handel. Alors Virginie, il y a une autre histoire peu banale, qui est celle du cheval d'Harley Arabiad. Ça encore, c'est quelque chose de très 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 intéressant.
Oui, Michel, en effet. Alors d'Harley Arabiad, son histoire commence en Syrie, près d'Alep, en 1700. On sait qu'il est né dans un troupeau de chevaux arabes élevés par des bédouins. Et ce cheval a tout de suite attiré l'attention de Thomas d'Harley, qui était à l'époque consul britannique en Syrie et tout en faisant le commerce pour la Levant Company, qui était une compagnie commerciale créée par la reine Elisabeth Ier. Alors, Darley acheta au cheikh Misra II le cheval pour la somme assez impressionnante de 300 souverains d'or. Mais le cheikh a eu des remords et il est revenu sur leur accord. Mais quelque chose que Darley ne pouvait pas lui laisser passer, donc il s'est entendu avec des marins afin que ceux-ci s'emparent du cheval et le fassent sortir en contrebande en passant par Smyrne. Et c'est ainsi que le jeune étalon de 4 ans est arrivé en Angleterre en 1704. Alors il fut envoyé à Albi Hall, hein, qui est le fief de la famille Darley, où d'ailleurs il a vécu jusqu'à la fin de ses jours en 1730. Alors, on a des témoignages, hein, notamment les lettres que Thomas Darley a écrites à son frère Henri. Et donc, je vais vous citer un passage de cette lettre écrite le 21 décembre 1703. Il aura 4 ans la fin du mois de mars ou en début d'avril. Il est bai et son antérieur gauche ainsi que ses deux postérieurs sont blancs. Il a une liste assez grande et mesure 1m52 au garrot et provient d'une race des plus estimées par les Arabes, à la fois par son père et par sa mère, et dont le nom est Manika. J'espère qu'il sera suffisamment apprécié, car il est très estimé ici, où j'aurais pu le vendre à un prix considérable si je n'avais pas choisi de l'envoyer en Angleterre.
Oui, et puis il avait peut-être quelques bédouins aux fesses, si je puis dire, aussi, donc il fallait quand même dégager assez rapidement. Les débuts de Darley comme étalon furent plutôt modestes, en fait.
Comme ceux de Byerley. Hein. Ouais, ouais. Lui aussi aurait sailli un nombre de juments de bonne, de qualité moyenne, on dira. Hein. C'est à nouveau la même remarque que craignait d'ailleurs Thomas Darley, hein, c'est le fait que les gens ne se rendent pas compte, que les gens d'Angleterre ne se rendent pas compte de la qualité de ces chevaux qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, il a eu par contre une jument qui lui a été envoyée par deux fois, par Leonard Chidlers, et qui s'appelle Betty Leeds. Et de cette Betty Leeds, il y a sont nés deux poulains, Childers en 1714 et Butler Childers en 1716, et qui eux se sont révélés des grands chevaux. Le premier était même surnommé Flying Childers, je répète que flying veut dire voler, volant.
Volant, voilà.
Et il était considéré comme le cheval le plus rapide ayant jamais existé, courant 6400 mètres en 6 minutes et 42 secondes.
Ce qui est extraordinaire. D'autant qu'il n'avait pas les fers légers comme maintenant, etc. Enfin, c'est quand même une sacrée performance.
Alors, il ne fut jamais battu en course et fut également un grand reproducteur, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on est un grand champion qu'on va être un grand reproducteur. Mais pourtant, c'est son frère qui, lui, n'a pas couru, qui va établir la dynastie à laquelle se réfèrent la plupart des purs sangs anglais aujourd'hui, à travers un cheval qui s'appelle Squirt, et qui engendra Marsk, et qui lui-même produisit Eclipse en 1764. Alors Eclipse, c'est une référence dans le monde des courses et dans le monde du pur sang. On sait que c'est un anti au caractère difficile, qui gagna 18 courses sans que son jockey, John Oakley, n'ait jamais eu à le cravacher ou à l'éperonner. Donc, à travers Eclipse, on a un des grands descendants de Darley Arabian. Et Michel, on sait aujourd'hui, grâce à des recherches menées en 2001 au Trinity College de Dublin, que 95% des purs sangs anglais mâles modernes descendent de Darley Arabian, car ils possèdent tous le même chromosome Y que leur ancêtre. Alors, je te passe les détails de cette recherche qu'on peut consulter sur Internet, mais c'est quelque chose qui est propre à Darley. Et ainsi, le vainqueur du derby anglais de 2016, Arzand, qui est un fils de Seed Stars, descend en droite ligne d'Eclipse et donc de Darley.
Voilà, donc l'arbre généalogique est très...
Ne
s'est jamais interrompu. Alors, si nous nous intéressions maintenant à un cheval qui fit longtemps polémique, il est sans doute le plus connu de la plupart des personnes qui s'intéressent aux chevaux, mais reste paradoxalement nimbé d'un certain halo de mystère, c'est justement Godolphin Arabian.
Voilà.
Parce qu'on a tout dit et n'importe quoi.
Voilà, alors Godolphin Arabian n'est pas arabe, malgré son nom, mais il est barbe, et comme... Il suffit de regarder les dessins et portraits qui ont été faits à cette époque pour s'en convaincre. Donc, comme c'est le plus célèbre des trois, son histoire a inspiré de nombreux romanciers dès le XIXe siècle, avec Eugène Sue, puis on a eu au XXe siècle Maurice Druon, et les Américains Margaret Henry et Wesley Dennis.
Alors juste une petite pour nos auditeurs. Donc Eugène Sue était un romancier et un feuilletoniste français au 19e siècle. Voilà, je ferme la parenthèse.
Alors pour te dire à quel point ce cheval est estimé dans l'histoire du monde hippique, hein, la famille Maktoum, hein, qui est la famille régnante des Émirats Arabes Unis, a même donné à son écurie de course le nom de Godolphin, hein, en hommage au célèbre étalon. Alors on sait pas mal de choses sur Godolphin, hein, qui sont à la fois vraies et d'autres qui sont de la pure légende. Donc je vous éviterai la pure légende pour me concentrer sur ce qui est vrai. C'est qu'il est né au Yémen en 1724, qu'il était bai avec une trace de balzane au postérieur droit et mesurait environ 1m45. Il a été offert par le bai de Tunis à Louis XV ainsi que 3 autres chevaux. Mais il semble que son physique particulier n'ait pas plu au roi de France et qu'il aurait laissé dans ses écuries. Et donc, selon la légende, les talons se seraient retrouvés dans les rues de Paris où il tirait une barrique. Alors, il y a une autre légende qui dit qu'il était en Alsace. Et lorsqu'il a été repéré par un gentleman anglais, Edward Coke, qu'il aurait acheté pour la somme de 3 livres. Une autre légende veut, et là j'aurais tendance à plus aller vers ce côté, qu'il ait acquis auprès du duc de Lorraine, qui était un cavalier de renom. Toujours est-il, Michel, que l'étalon partit pour le domaine de Coke en Angleterre, à Longford Hall, dans le Derbyshire, où il est mentionné dans les registres sous le nom de Ye Arabian. Il engendra 2 poulains d'exception avec la jument Roxana, Lath en 1732 et Cade en 1734. Puis, Laff fut vendu au duc de Devonshire et fut le plus grand cheval de course de son époque après Flying Childers. Et Cade engendra Matcham, dont descendent aujourd'hui 5% des purs sang anglais.
Voilà, donc en 1748. Hein. Voilà. À la mort de Cook en 1733, les étalons retrouvèrent une autre personne qui s'en est occupée, je crois.
Oui, alors ces étalons allèrent à Roger Williams, hein, qui était courtier et qui vendit Godolphin Arabian, hein, à Lord Godolphin. Donc Cham est devenu Godolphin Arabian, hein, du nom de son nouveau propriétaire, qui avait déjà hérité des chevaux de course et des juments de Coke. C'est alors qu'il rentre, hein, au Harad Gogmagog, où il restera pendant 20 ans, hein, jusqu'à sa mort en 1753, qui se situe non loin de Newmarket. Mmh. Il est enterré dans un passage menant à l'écurie, sous une voûte, hein, une pierre tombale. Et Godolphin, alors là, a engendré 2 chevaux à nouveau exceptionnels, Regulus et Blink. Et c'est là où l'histoire se rejoint, c'est que l'une des filles de Regulus, Spiletta, n'est autre que la mère d'Eclipse, faisant ainsi se rejoindre les lignées de Darley et de Godolphin.
On pourrait presque dire que la boucle est bouclée, hein, en quelque sorte.
Alors, on a donc des témoignages de l'aspect physique de Godolphin, hein, comme de Darley, et je vous en donne 2. Donc le premier est celui du vicomte de Manty, qu'il a donc vu de son vivant. Il était d'une conformation magnifique, proportionnée d'une manière exquise avec de grands jarrets, des jambes de fer avec une légèreté inégalée de l'avant-main. Et voici ce qu'a dit également le vétérinaire William Osner. Tous ceux qui ont vu ce cheval doivent se souvenir de ses épaules profondes, accrochées loin dans son dos, que la plupart des chevaux que j'ai vus. Là où les muscles de ses reins saillaient, il y avait peu d'espace. Ceux-ci étaient hauts, larges et développés, et étaient insérés dans son arrière-main avec plus de force et de puissance qu'aucun des chevaux de cette dimension que j'ai jamais vu. Il n'est pas étonnant que l'excellence de sa silhouette ne se soit pas manifestée plus tôt aux yeux des hommes, si l'on considère le peu de beauté de sa tête et de ses oreilles, la position de ses antérieurs, une croissance retardée due au manque de nourriture dans son pays d'origine. Donc tu vois là, Michel, qu'on n'a pas du tout dans la description classique d'un cheval arabe.
Tout à fait, oui.
Et ce peu de beauté, hein, qui est probablement aussi une des raisons pour lesquelles Louis XV n'a pas souhaité monter ce cheval, est lié à la physionomie très particulière du cheval barbe.
Absolument. Oui, Virginie, qu'est-ce qui caractérise le studbook, en fait, des pur-sang arabes?
Je rappelle, hein, que le studbook est le livre de race, hein, sur lequel sont enregistrés les chevaux. Alors, ce qui est spécial, vraiment spécifique au studbook du pur-sang arabe, c'est qu'il est ce qu'on appelle fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun apport d'autres races à partir du moment où les lignées, les chevaux ont été enregistrés comme étant des chevaux pur sang.
Que les lignées sont constituées. Donc,
voilà. Voilà tout et fait, donc, oui. Ce qui le caractérise, hein, c'est ça, cet aspect fermé, et le fait que ces chevaux, hein, quand on regarde à travers l'histoire, ont été sélectionnés au cours des siècles sur leur vitesse, qui reste toujours aujourd'hui le critère principal pour un éleveur et un propriétaire de pur sang. Et comme le dit l'historien Peter Edwards, hein, le pur sang, seul 200 d'origine orientale, fut inventé en Angleterre pour incarner la perfection. La race reste pure depuis plus de 200 ans.
Deux siècles, voilà, sans anicroche. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis, les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Et merci Virginie de nous avoir décrit cette subtile alchimie qui aboutira à ce cheval d'exception, ce grand sportif qui est le pur sang anglais. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à tous les chevaux. Ciao, ciao.